Le journal présenté par Olivia Cohen.
Bonjour à toutes et à tous. Dans une demi-heure débute la manifestation parisienne contre la réforme des retraites avec un espoir, celle de la convergence des luttes. Et oui, les syndicats à la manœuvre espèrent voir des gilets jaunes dans leur rang. Nous serons sur place Gare du Nord au départ de la manif. 76 morts dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Attentat à la voiture piégée, un attentat qui n'a pas été encore revendiqué. Dans l'actualité également, le soutien de Donald Trump à un soldat poursuivi pour crime de guerre en Irak fait polémique. De nouvelles révélations dans la presse. Cet homme est qualifié de psychopathe. Et puis les marchés de Noël, c'est une spécialité en Alsace, en Allemagne. Celui de la Piazza Navone à Rome fait pâle figure. Reportage à suivre. Dans quelques instants, le cortège va se mettre en marche à Paris. Manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats CGT Cheminots et Sudrail qui espèrent bien être rejoints par des gilets jaunes pour clore 2019 sur une belle convergence des luttes. Stéphane Genest, vous êtes au départ de la manifestation Gare du Nord et les manifestants, sont déjà là.
Oui, Olivia, déjà une centaine de personnes rassemblées devant la gare du Nord. De plus en plus de manifestants affluent, pancartes à la main, sur lesquelles on peut lire des slogans contre la réforme des retraites. Les camions qui ouvrent le cortège commencent à diffuser de la musique et les militants se succèdent au micro pour montrer leur détermination. Vous le disiez, hein, Olivia, les gilets jaunes sont attendus dans quelques minutes ici, gare du Nord, pour grossir les rangs des manifestants. Ils ont quitté la place de la Bourse il y a environ une heure. Ils ne devraient donc pas tarder à arriver. L'ambiance est calme pour le moment, départ prévu dans une demi-heure.
Et Stéphane, voilà qui devrait galvaniser les manifestants. La cagnotte lancée pour soutenir les grévistes a dépassé le 1 000 000 d'euros. C'est ce qu'a indiqué ce matin la CGT.
Oui, et ces cagnottes rencontrent un franc succès, notamment, vous le disiez, la cagnotte de la CGT qui a franchi le cap du 1 000 000 d'euros hier. Créée en 2016 lors de la mobilisation contre la loi travail, elle a été réactivée dès le 5 décembre, date du début du mouvement contre la réforme des retraites. Mais il n'y a pas que ce système des cagnottes en ligne qui est utilisé, puisque des collectes physiques lors des manifestations ou des blocages sont organisées. L'objectif est clair, soutenir le mouvement en aidant financièrement les grévistes. Hier, Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise, a d'ailleurs adressé une lettre aux parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. Lettre dans laquelle il propose la mise en place d'une caisse de solidarité alimentée par des dons personnels. Le chef de file de la France Insoumise encourage également la participation de tous les Français aux cagnottes en ligne déjà existantes. Mais bien avant cette initiative de Jean-Luc Mélenchon, une quarantaine de personnalités, écrivains, comédiens ou encore universitaires, avaient déjà appelé à soutenir financièrement les grévistes.
Stéphane Genest avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. D'autres manifestations prévues un peu partout en France, à Rennes, à Saint-Brieuc ou encore Strasbourg et Chambéry. Au 24e jour de mobilisation, trafic toujours très perturbé. 800 000 voyageurs attendus ce week-end dans les gares avant le réveillon du nouvel an. Comptez 6 TGV, 3 TER et 3 intercités sur 10. Un Transilien sur 5 jusqu'à dimanche soir. Et ces lignes de métro sont fermées aujourd'hui à Paris. Les revendications de ces manifestations seront-elles entendues? Les négociations avec le gouvernement doivent reprendre le 7 janvier. Sur France Culture, ce matin, notre invité, l'essayiste et enseignant à Sciences Po Paris, David Jaiz, analysait ce mouvement. Il salue, je cite, un indice de vitalité démocratique. Et pour lui, à l'avenir, il va falloir faire avec plus de sobriété, mais sans pour autant perdre en démocratie.
Confusément, nous avons tous conscience que la puissance publique est de retour. Simplement, les modalités et les formes de cette puissance publique que nous voyons aujourd'hui revenir sont particulièrement angoissantes parce que c'est le national-populisme, c'est la course aux armements, c'est la démonstration de force et l'agressivité géopolitique permanente. Moi, je crois que nous pouvons inventer un nouveau cycle surplombé par la puissance publique, mais qui fasse droit à ces questions de lien, à ces questions de démocratie de construction, à ces questions de sobriété.
Et d'environnement, voilà, parce que ça veut dire quelque chose aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer une alliance entre la démocratie et les préoccupations environnementales, cette sobriété dont vous parlez?
De toute façon, il faut l'espérer, parce que si nous n'arrivons pas à construire cette alliance entre la préoccupation démocratique et la préoccupation environnementale, vous allez avoir un discours sur le thème « l'environnement doit se séparer de la démocratie ». En disant, finalement, la démocratie n'est pas capable de traiter la crise climatique. Et donc, il est absolument indispensable de construire une alliance entre les deux. Sinon, il y aura la tentation de régler la crise climatique d'une manière autoritaire en liquidant la démocratie.
David Jais, essayiste et enseignant à Sciences Po Paris, il est notamment l'auteur de Slow Démocratie aux éditions Alary. Il répond à Benoît Bouscarel. Interview à réécouter en intégralité sur franceculture.fr. Le plan de continuation du journal L'Humanité validé ce matin par le tribunal de commerce de Bobigny. Après 10 mois de redressement judiciaire, l'UMA sort donc de la mauvaise passe dans laquelle il se trouvait. C'est ce qu'on peut lire sur le site du journal, un journal fondé par Jean Jaurès il y a 115 ans. À quelques jours de 2020, le Conseil constitutionnel valide la loi de finances de l'année prochaine. Seule une disposition est rejetée, celle sur la collecte des données sur les réseaux sociaux pour détecter les fraudes fiscales. En revanche, sont validés l'arsenal législatif de lutte contre la fraude à la TVA et l'obligation de domiciliation fiscale des dirigeants de grandes entreprises. Ce sera un outil de plus pour lutter contre la fraude, se félicite sur Twitter le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Un échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine aura lieu demain. C'est ce que nous annoncent aujourd'hui les rebelles pro-russes. Et si ça se confirme, ce serait une étape importante vers un apaisement du seul conflit armé actif d'Europe. 76 morts dans un attentat au véhicule piégé à Mogadiscio ce matin. L'attaque n'a pas été revendiquée. Elle intervient dans un contexte de violence menée par les islamistes Shebab, qui contrôlent encore plusieurs zones rurales dans le pays. L'attaque a eu lieu dans un quartier animé de la capitale somalienne, Nadine Epstein.
Cela a été dévastateur parce qu'il y avait beaucoup de monde, notamment des lycéens dans des bus, raconte un témoin. Tout ce que j'ai pu voir, ce sont des corps morts, éparpillés, certains brûlés au point d'être méconnaissables, témoigne un autre homme choqué. L'action sanglante a été déclenchée à un point névralgique de la capitale très fréquenté en vue de faire le plus de victimes possible. Le ministère de l'Information a lancé un appel aux dons de sang. Une radio locale parle d'ingénieurs turcs et d'une dizaine de policiers touchés. Pas de revendication pour l'instant, mais vraisemblablement les auteurs appartiennent à un groupe islamiste, les Shebab, Al-Qaïda, qui ont juré la perte du gouvernement somalien. Leurs attaques n'ont jamais cessé. Le 10 décembre, un commando a pris de force un hôtel et 82 personnes. Les forces de sécurité somaliennes ont abattu les 5 hommes. En octobre, 7 obus de mortier ont frappé une zone aérienne de la force de l'Union africaine en Somalie. En juillet dernier, un attentat avait frappé les locaux de la municipalité de Mogadiscio, faisant une vingtaine de tués et de blessés.
De nouveaux affrontements au Chili, des milliers de manifestants aux prises avec les forces de l'ordre hier à Santiago, la capitale. Le Chili est secoué depuis 2 mois par une profonde crise sociale, la plus grave depuis le retour de la démocratie il y a presque 30 ans. Une trentaine de morts a signalé en marge des manifestations. Et en Irak, de nouveaux tirs de roquettes contre la base militaire de Kirkuk dans le nord du pays ont fait une victime, un sous-traitant américain. Des tirs attribués par Washington aux factions pro-Iran. Également signale plusieurs blessés, des militaires américains et des membres du personnel irakien. À Bagdad, on retrouve l'embrasement alors que de nouvelles manifestations anti-gouvernement sont prévues aujourd'hui. Le pays traverse sa plus grave crise depuis des décennies. Et justement, aux États-Unis, le soutien de Donald Trump à un soldat jugé pour crime de guerre fait tache après de nouvelles révélations dans la presse. C'est le dossier Edward Gallagher. L'homme s'est fait connaître à cause d'une photo prise en Irak où il prend la pose à côté du cadavre d'un prisonnier. Cliché qui lui a valu une dégradation, sanction annulée par le patron de la Maison-Blanche. Un choix qui interroge alors que de nouveaux témoignages sur la personnalité du soldat font la une du New York Times. Loïc Loury.
Un psychopathe ou encore le mal incarné, face à de tels témoignages, le président américain aura bien du mal cette fois à défendre Edward Gallagher. L'été dernier, cet homme de 40 ans, membre des prestigieux Navy SEALs, avait échappé au pire, acquitté notamment de 2 tentatives de meurtre sur des civils irakiens. Condamné finalement à une simple dégradation, son sort aurait toutefois pu être différent à entendre le portrait qu'en font les soldats qui l'ont côtoyé. Le New York Times en effet a mis la main sur les interrogatoires menés avant le procès d'Edward Gallagher.
J'ai entendu des rumeurs, des choses comme ça. Il aime viser les civils.
Il a tiré sur un enfant d'environ 12 ans. Le type était de plus en plus cinglé.
Il était d'accord avec le fait de tuer n'importe qui.
Ce gars était toxique.
L'intéressé se dit dégoûté de tels mensonges, peut-être aussi surpris de voir briser la culture du secret qui règne habituellement au sein de l'armée. Reste à connaître la position de Donald Trump qui défend le soldat depuis le début de cette affaire jusqu'à pousser le chef de la Navy à la démission. Le week-end dernier, le président recevait d'ailleurs Edward Gallagher et sa femme dans sa résidence de vacances en Floride.
Les précisions de notre correspondant à New York, Loïc Loury. Une activité de saison, boire un vin chaud dans les allées des marchés de Noël aux quatre coins de l'Europe. Alors les marchés de Noël, c'est une spécialité par exemple en Alsace ou en Allemagne. Celui de la Piazza Navone, la place Navone à Rome, est bien vide. Il n'attire pas les touristes, Bruce de Galzin.
Le soleil brille, il fait 15 degrés, des centaines de milliers de touristes sont à Rome, mais lorsqu'ils arrivent place Navone, c'est la douche froide et le jugement est sévère. Isabelle vient de Lucerne, en Suisse.
C'est pauvre comme marché de Noël. Il n'y a pas de petits chalets en bois, comme on peut le voir dans certaines villes comme Strasbourg. J'ai même pas vu de sapin.
Il n'y a que 39 stands cette année, il y en avait 150 il y a 5 ans. Des stands devenus chers en raison des normes de sécurité à la charge des forains et commerçants qui ne les ont pas respectés. Le marché a ouvert, puis fermé, puis rouvert. Fabio Manello est leur représentant.
Le plan de sécurité ne devrait pas être à la charge des commerçants, mais à l'organisateur du marché. Et c'est la commune, selon nous. Ce plan coûte assez cher. Et en plus, il faut payer l'emplacement, les assurances. Il y a trop de bureaucratie.
Même les Romains sont déçus, eux pour qui ce marché est une tradition. Gabriel est à 36 ans, enfant, il y allait avec son père.
Ce n'est plus comme avant, quand j'étais petit, il y avait plein de stands, bien plus beaux. Il reste le manège avec les chevaux au fond. Bon, j'ai quand même amené mes enfants, mais malheureusement, ils ne vivront pas ce que j'ai vécu.
Et Gabriel espère, sans trop y croire, que sa ville et son marché retrouveront leur faste d'antan.
Un reportage pour France Culture, signé Bruce de Galzin, notre correspondant à Rome.
La bulle économique, Marie Viennot.
Une fin d'année agitée pour les Français, beaucoup plus douce et lucrative. Pour Amazon, le géant du commerce en ligne parle d'une année 2019 exceptionnelle. Avec ces dernières semaines, 250 000 recrutements. Le joli conte de Noël version Amazon, c'est la bulle économique de la rédaction de France Culture, signée Marie Viennot. Noël,
au nom de tous les Amazoniens, nous souhaitons à tous de joyeuses vacances et une fantastique année 2020. Ce n'est pas l'Indien Raoni qui s'exprime ainsi, mais Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Cette saison des fêtes a été la meilleure de tous les temps, nous dit l'homme le plus riche du monde dans un communiqué publié au lendemain de Noël. Et en France, quid de l'effet grève sur les ventes du géant américain? Le saura-t-on un jour? Mystère et boule de gomme. Amazon n'a en effet aucune obligation de le dire. Mais dans une opération transparence, la firme de Seattle a dit réaliser en France 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Ce qui paraît tout petit au regard de ses ventes annuelles mondiales qui s'élevaient l'an passé à 160 milliards d'euros. 160 milliards en 2018 à comparer à 237 milliards d'euros cette année. Oui, 2019 fut une bonne année sur le plan commercial et financier, mais beaucoup moins sur le plan médiatique. L'un des deux A de GAFA effraie de plus en plus, et pas que les activistes français qui se sont fait déloger des abords de ces entrepôts, comme ici, comme on l'entend, à Lyon pour le Black Friday. Cette année, les critiques sont venues de partout. Amazon climaticide pour les ONG, Amazon destructeur net d'emplois pour l'ancien secrétaire d'État au numérique, Amazon qui ne respecte pas ses obligations d'information contractuelle pour ses objets connectés. Ça, c'est que choisir. Amazon condamné par la justice française pour des clauses abusives envers ses fournisseurs. Amazon déjà épinglé par la Commission européenne pour des raisons fiscales et aujourd'hui soupçonné d'utiliser les données issues des détaillants qui vendent sur son site pour enfreindre les règles de la concurrence. Une enquête a été ouverte l'été dernier. Amazon, enfin, qui a réussi à susciter un mouvement de contestation coordonnée de ses syndicats et salariés en Europe et aux États-Unis pour dénoncer les cadences, le contrôle permanent des performances et l'application discutable des conventions collectives. Mais à toutes ces critiques, Amazon a des réponses, car cette année, Amazon communique par communiqué et attaché de presse interposé. Climaticide, nous, impossible. Le PDG s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2040. Destructeur d'emplois, faux. Amazon, c'est 30 000 emplois créés en France. Le PDG d'Amazon France se dit soucieux, je cite, d'apporter un éclairage plus concret sur notre contribution au financement des services publics et du modèle social français. Et donc Amazon a publié cette année, en même temps que son chiffre d'affaires, le montant de ses impôts payés en France en 2018. 250 millions d'euros. 250 millions, que dire de ce chiffre? Eh bien, pas grand-chose, car c'est un chiffre qui mélange allègrement les choux et les carottes. On y trouve des impôts qu'Amazon ne paye pas, mais collecte pour l'État. la TVA, les cotisations sociales. On y trouve aussi les cotisations patronales, les impôts locaux et le fameux impôt sur les sociétés. Impossible cependant de le comparer au profit que fait Amazon en France, puisqu'on ne connaît aucun des deux chiffres. Impossible encore plus de savoir combien Amazon paierait d'impôts si elle ne pratiquait pas l'optimisation fiscale, certes légale, mais pour les services publics si peu contributrice. 250 millions, on sait quand même que c'est un sixième de ce que Jeff Bezos a gagné en 3 jours en vendant une partie de ses actions au mois d'août. Chaque année, il prévoit de vendre $1 milliard d'actions à Amazon. Pour quoi faire ? Pour transporter l'humanité dans l'espace où, dit-il, les ressources sont illimitées. Son projet s'appelle Blue Origin, le prototype qu'il a présenté en mai, Blue Moon, et cette fois, promet-il, si on retourne sur la Lune, ce sera pour y rester. Infini est l'ambition d'Amazon, qui dans un lointain Noël pourrait bien nous annoncer avoir sauvé l'humanité.
La bulle économique à réécouter sur franceculture.fr. La météo, cet après-midi, c'est du soleil dans le Grand Est et dans le Sud. Températures les plus faibles, 3 degrés à Strasbourg et Belfort. Et les maximales jusqu'à 16 degrés à Perpignan. La Charente-Maritime reste en vigilance orange pour des risques d'inondation.